franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Ça y est, ça vient. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. C'était début septembre, souvenez-vous, la photo du petit Elan s'affichait dans toute la presse. Elan, un enfant syrien de 3 ans, mort noyé à la suite du naufrage de l'embarcation avec laquelle, en compagnie de sa mère et de son frère, il avait tenté d'échapper à la guerre dans son pays. Souvenez-vous, c'était en septembre, son petit corps allongé sur le sable, face contre terre, face à la mer, un cliché qui avait ému le monde entier, provoquant un électrochoc tout à la fois dans l'opinion et le personnel politique. Puis 2 mois plus tard, à la une de Libération, s'affichait une autre photo. De nouveau, le corps d'un enfant inerte sur la grève et ce titre pour alerter « Chaque jour, 2 Elan ». Et hier, comme le rapporte le quotidien, ce ne sont pas 2, mais 20 Elan qui ont péri en mer Égée. Au total, sur une seule journée, 43 noyés entre les côtes turques et grecques ce vendredi, 43, dont la moitié étaient donc des enfants. Mais le sujet n'est en couverture d'aucun journal ce matin, sans doute en premier lieu, parce qu'il n'y a pas de photos. Ce sont des victimes sans image, des désespérés sans nom.
Redonner leur identité aux victimes, c'est précisément ce que tentent de faire les associations qui travaillent sur le site de la jungle de Calais.
La jungle, bien triste appellation, mais c'est le mot qu'on emploie. Reportage de Corinne Chabot dans les colonnes de La Vie. Sur la piste, des exilés qui sont morts près de la frontière. C'est le titre de son papier qui nous apprend que le nombre de réfugiés qui sont décédés à Calais a vraisemblablement augmenté l'an dernier. Impossible toutefois d'avoir les chiffres exacts. Il y en aurait eu 14 selon le procureur de Boulogne-sur-Mer, 17 selon la mairie, 21 selon le Secours catholique et 26 pour Médecins du Monde. Et pourquoi ce nombre a-t-il grimpé? D'abord parce que les candidats à l'exil sont de plus en plus nombreux. Ensuite, parce qu'ils prennent de plus en plus de risques. Beaucoup ont ainsi tenté leur chance par le tunnel, lequel s'est avéré très meurtrier. Abdelaziz, un Soudanais de 26 ans, évoque ainsi le souvenir de Youssef, un jeune compatriote qui avait 17 ans. Sur le bord de l'autoroute, là où roulent les véhicules qui vont en Angleterre, une camionnette l'a accroché et traîné sur 15 mètres. Mais dit-il, il était vivant. Une ambulance est arrivée, puis la police, mais ils ont mis au moins une heure avant de le conduire à l'hôpital. S'ils l'avaient emmené tout de suite, ils auraient pu le sauver. D'autres victimes sont mortes écrasées par des trains, broyées ou électrocutées. Et si certaines ont donc un nom, ou du moins un prénom, très souvent les associations, pas plus que la police, ne savent quoi que ce soit d'eux, et donc elles mènent l'enquête et parfois même elles financent les funérailles dans le cimetière nord de Calais, sachant qu'au cimetière sud, au carré des anges, de petits rectangles blancs abritent, eux, les cercueils des nouveau-nés décédés. Y repose notamment Samir, bébé érythréen inhumé en juillet. Il est mort une heure après sa naissance, lorsque sa mère, qui s'est ensuite enfuie, a chuté d'un camion sur lequel elle avait grimpé clandestinement. Sur le sujet, Le Figaro a choisi un angle différent ce matin, l'angle sécuritaire. La France, titre le journal, éloigne de moins en moins de clandestins. Selon le bilan du ministère de l'Intérieur, 4 illégaux sur 5 ne sont pas expulsés du territoire français. De son côté nord littoral, nous explique qu'à Calais, les riverains qui habitent aux abords de la jungle, bien triste appellation, mais c'est le mot qu'on emploie, ces riverains donc réclament une réduction de leurs impôts. Eux aussi se disent aujourd'hui désespérés, en colère, et désespérés de vivre à côté de ce camp de désespérés.
Et puis Libération revient sur le traumatisme provoqué en Allemagne par les agressions massives de la nuit de la Saint-Sylvestre.
Les agressions à Cologne, plus de 750 plaintes ont été déposées, dont 600 pour agressions sexuelles. Et le quotidien a décidé de mener sa contre-enquête dans un quartier de Düsseldorf où vivent des bandes criminelles d'origine immigrée, des immigrés d'Afrique du Nord, coupés de la société allemande et vers lesquels convergent aujourd'hui tous les regards des enquêteurs. 3 semaines après les faits, une 20aine de suspects, presque tous maghrébins, ont été arrêtés, mais la plupart pour vol ou coup avec blessure. Analyse d'un chercheur spécialiste des questions de violence liées aux migrations. Que sait-on sur les agresseurs, lui demande le journal. Ce sont, dit-il, des hommes en situation d'échec. Ils sont venus avec un projet précis, chargés d'une mission, envoyer de l'argent à leur famille. Ces hommes sont sous pression. La réalisation de ce projet s'avère rapidement impossible en Allemagne pour des Maghrébins qui n'ont aucune chance d'obtenir le statut de réfugiés politiques. Ils n'ont donc pas le droit de travailler. Ils sont exclus des cours de langue et d'intégration et ils ne peuvent pas choisir leur lieu de résidence. Ils sont contraints de vivre dans l'illégalité. Je ne veux en rien les excuser, dit-il, mais ils n'ont pas d'autre choix que de tomber dans la criminalité. Et du coup, estime le journal, tout cela montre avant tout l'échec de l'intégration en Allemagne. L'échec, donc, d'Angela Merkel, c'est aussi le point de vue défendu dans La Croix par Geneviève Jürgensen. Elle dénonce même un pays qui a choisi de faire l'autruche, l'Allemagne. Souvent citée comme une société exemplaire, n'a pas voulu voir la question des sans-papiers vivant depuis longtemps nombreux sur son sol, parmi lesquels furent identifiés des auteurs des exactions préméditées de la Saint-Sylvestre. Fermer les yeux et de règles partout. Il y a 6 ans des élections approchant, un rapport de la police anglaise fut ainsi tenu secret par peur d'encourager un parti nationaliste et de créer des tensions entre communautés. Ce rapport révélait l'existence d'un réseau d'hommes, en large part pakistanais, recrutant de toutes jeunes anglaises pour les prostituer. Près d'une sur deux vivaient chez ses parents, beaucoup d'autres, vulnérables entre toutes, vivaient en foyer. Elles furent pourtant, pendant des années, sacrifiées à l'idéal du vivre ensemble, qui fait partie de ces bonnes intentions dont l'enfer est pavé. Sauf que se bander les yeux pour préserver son rêve, c'est faire l'enfer de l'autre jusqu'au moment où le bandeau tombe en lambeaux. Ne pas fermer les yeux, ne pas se voiler la face, identifier les agresseurs, sans oublier toutefois de rappeler qui sont les victimes. En l'occurrence, c'était des femmes que bien sûr il ne faut surtout pas laisser tomber, ainsi que le souligne Elisabeth Badinter, qui ne se remet toujours pas d'avoir constaté qu'après cette affaire, des féministes ont par peur des amalgames choisi de détourner le regard. À Cologne, dit-elle, on a eu l'impression qu'il était désormais possible en Europe qu'il y ait une chasse aux femmes. Et je n'ai pas souvenir dans ma vie d'avoir connu un tel précédent. Elisabeth Badinter, qui désespère des féministes, c'est à lire dans Marianne.
Et Nicolas Sarkozy, qui espère que son livre, à paraître lundi, va convaincre qu'il a changé, eh bien ça c'est à lire dans tous les journaux.
Et dans tous les éditoriaux, qui à de rares exceptions se moque un peu de son opération Nouvel Homme, et mea culpa. Nicolas Sarkozy tente de purger son passé, estime Le Monde, qui se demande si cette nouvelle opération Rédemption pourra permettre de modifier son image auprès des Français. Publier un livre qui reconnaît modestement quelques fautes de débutants est un exercice salutaire et méritant, mais certainement pas suffisant, assure Dominique Young des Dernières Nouvelles d'Alsace. Pour Jean-Michel Bougreau de la République des Pyrénées, c'est l'opération Dernière Chance. Pour un Sarkozy qui avoue 27 fautes, mais toutes minimes, l'ancien président ne pouvait pas couper un mea culpa, affirme Yves Arthez dans Sud-Ouest. Mais fallait-il ce fouet et ces grosses cordes? On peut en douter, ajoute-t-il. Ce livre Confession est une fusée de détresse lancée par un candidat à une seconde chance qui peine à se faire entendre, relève pour sa part Michael Tassard du Courrier Picard. Quant à Libération, le journal s'amuse de l'autre erreur avouée par Nicolas Sarkozy, ne pas avoir laissé voir l'étendue de sa culture, explique-t-il dans son livre, car il aurait été impudique de la révéler. Impudique de révéler Sarkozy, dit-il, sa culture. Sarkozy, victime de sa pudeur, voilà une hypothèse rarement explorée, note Alain Offray dans Libération.
À propos de culture, Frédéric, l'Académie des Oscars a décidé de prendre des mesures pour augmenter sa diversité.
C'est à lire notamment sur le site de 20 minutes, grand chamboulement en vue au sein d'une organisation à 76% masculine et 93% blanche. Après la tempête de protestations et d'appels au boycott, l'Académie des Oscars va mener le mouvement et ne pas attendre que le secteur rattrape le retard en termes de diversité. Déclaration de la présidente de l'Académie des Oscars qui annonce une série de mesures historiques pour s'ouvrir davantage aux minorités ethniques et davantage aux femmes, notamment avec un doublement dans les prochaines années des membres féminins qui proviennent de minorités ethniques dans l'Académie des Oscars. Les femmes, où sont les femmes? Dans l'Équipe Magazine, le classement des sportifs préférés des Français, en tête, le roi Manodou, chouchou des Français pour la 2e année d'affilée. Le nageur, sprinter, n'a plus qu'une infime avance sur son dauphin Tony Parker. Que des hommes dans ce classement, que des hommes, Patricia.
Oui.
N'est-ce pas à désespérer?
Si, c'est à désespérer, Frédéric.
Une info pour retrouver l'espoir, pour
arrêtez
finir.
Arrêtez de rire, Pierre Veil.
Miraculeux, c'est-à-dire d'Angala, Frédéric François aurait réveillé une femme du coma grâce à un simple coup de fil. Victime d'un accident de voiture, une certaine Janine était hospitalisée depuis plusieurs jours dans un état critique quand son fils a eu l'idée de demander au chanteur, idole de sa chère maman, de l'appeler. Un vœu auquel l'artiste a accédé en encourageant la dame durant 10 minutes par téléphone. Il lui a dit de se réveiller. Or la magie a opéré. Et Janine s'est réveillée quelques heures plus tard. Son fils dit « Je suis certain que Frédéric François y est pour quelque chose. »
Si vous nous passez du Frédéric François, je vous tords le cou.
Tout dépend de Marie Mérier.
J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Et je vois tout rouge, marche si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, je t'aime à l'italienne.
Tout droit sorti de la discothèque de Pierre Veille.